Violence sociale, donc on ne parle plus. C'est donc exclusion, excommunication, ce que vous voulez. En l'occurrence, moi, j'ai pas excommunié. J'ai envoyé une lettre d'adieu à ma famille qui me parlait déjà plus ou moins plus. Et j'ai envoyé des poèmes et je leur ai dit, ben voilà, pour moi, en fait, ma vision du monde a changé. Donc voilà.
L'évasion, on l'associe souvent au rêve, au voyage ou à un slogan marketing. Pour nous, c'est avant tout un processus d'émancipation. Comment peut-on s'évader d'une institution? S'évader des normes et constructions sociales, de nos croyances ou de nos peurs? Nous avons rencontré des personnes qui ont partagé avec nous leurs expériences d'évasion. Nous, c'est Laure, musicienne et raconteuse d'histoires, Jill, artiste sonore, et le projet Évasion, réseau de création et diffusion de contenus anarchistes et émancipateurs. Bienvenue sur Les Étoffes. Dans cet épisode, nous vous partageons l'histoire de Pierre, qui a quitté les Témoins de Jéhovah 2 ans environ avant ce témoignage.
En fait, c'est que c'est l'évasion d'un contrôle. Quand tu es dans un milieu, disons sectaire, ça peut être religieux, politique, ça peut être même familial, hein, mais on parle souvent de secte sans forcément savoir ce que c'est. En fait, c'est un milieu dans lequel tu as un contrôle, tu subis un contrôle qui est un contrôle de l'information, de l'émotion, un contrôle de ton comportement, ce que tu as le droit de penser, ce que tu as le droit de faire, ce que tu as le droit de mettre pour t'habiller. Et en fait, c'est un contrôle que tu as appris à avoir sur toi-même. La première fois où j'ai décidé que non, j'allais continuer de regarder et aller regarder un peu plus d'informations sur ce qu'on disait, j'avais des réactions physiques. Physiquement, je tremblais, j'avais des crises d'angoisse, je m'accroupissais, j'avais mal au ventre et je pleurais. Je me disais, pourvu que ce soit pas vrai, pourvu que ce soit pas vrai. Parce qu'il y a une dissonance cognitive qui est énorme. Tu as appris quelque chose toute ta vie et tu veux absolument que ce soit vrai, que ça reste vrai. Mais tu as aussi appris à être plus méthodique, à être plus scientifique dans les études et tu dis, non, mais en fait, je peux très bien avoir tort. Voyons. Si c'est vraiment la vérité, parce que c'est un terme qui est très utilisé chez les témoins de Jéhovah, c'est la vérité. Ils parlent de leur dogme comme la vérité. Beaucoup de milieux religieux font ça. C'est de dire tout le monde a sa vérité. Et là, en l'occurrence, je me défendais dans ma poursuite de cette recherche en me disant, bon, si c'est vraiment la vérité, ça doit survivre à mes recherches. Enfin, ça n'a pas survécu très longtemps. C'est que il y a un élément qui déclenche un peu ce doute ou bien ce désir d'absolument vouloir fortifier sa foi. C'était mon cas. J'allais pas hyper bien. J'allais pas hyper bien au niveau de ce que les témoins de Jéhovah appelleront le niveau spirituel. En gros, c'est un mot pour un autre, hein. C'est au niveau religieux que ça allait pas parce que j'arrivais plus vraiment à préparer mon endoctrinement personnel pour chaque semaine réunion et j'arrivais plus vraiment à prier et puis j'avais pas un comportement religieusement acceptable pour les témoins de Jéhovah. Par religieusement acceptable, je parle tout simplement de masturbation et de pornographie. Hein. C'est quelque chose, il y a une énorme répression sexuelle chez les témoins de Jéhovah. C'est très tabou, mais en même temps, tout le monde le fait, mais après regrette et se sent hyper mal. Et pour le coup, c'est un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et je me suis dit, ok, je vais fortifier ma foi. Je vais faire des recherches et Franchement, si j'arrive à la porte de quelqu'un et qu'il me donne un argument, j'ai envie de pouvoir me défendre. Et du coup, je vais voir qu'est-ce qu'on attaque, qu'est-ce qu'on impute aux témoins de Jéhovah. Et puis, en fait, petit à petit, je me rends compte, je travaille sur un thème historique et je me rends compte que ça fonctionne pas, qu'il y a les preuves historiques et il y a l'histoire que les témoins de Jéhovah donnent. Je me dis, mais il y a une séparation entre les deux, il y a une impossibilité de cohésion entre les deux. Et du coup, je me dis, ok, mais c'est quoi les arguments de l'un, c'est quoi les arguments de l'autre? Et il se trouve que les arguments des témoins de Jéhovah, dans un article qui avait été publié en 2011, étaient juste fallacieux. Et on peut en arriver à cet événement, en fait, qui m'a fait vouloir fortifier ma foi. Donc, je venais de déménager. J'avais rompu avec mon ex quelques mois avant. Et puis forcément, la répression sexuelle, c'est quelque chose qu'on arrive éventuellement à tenir pendant un moment. Mais quand ça va pas hyper bien, faut se relâcher d'une manière ou d'une autre. Et en l'occurrence, je m'étais remis à regarder de la pornographie. Et j'en ai parlé à mon frère. Mon frère a 8 ans de plus que moi. il est ce qu'on appelle ancien. Un ancien, c'est disons un équivalent de prêtre, plus ou moins, d'accord? Donc, une personne qui m'encourage vraiment très bien et puis qui sait tout le temps me sortir les bons versets bibliques pour m'expliquer les choses. Et je lui en parle et puis du coup, ben, je me suis senti un peu libéré, un peu cette confession où on se sent mieux et on se dit bon, ben voilà, je vais repartir de bon pied. Et un jour après, il m'appelle, il me dit « Alors écoute, je vais passer avec un autre ancien. » Je me dis « Mais non, non, tu vas pas... Enfin, c'est réglé, j'ai plus envie d'en parler, c'est bon. »« Ouais, mais en fait, c'est comme ça que c'est prévu. » Là, déjà, je me disais « Mais quoi, c'est prévu par qui, comment ?» Et après coup, j'ai compris que c'était comme ça que c'était prévu par l'organisation où, quand il y a un soupçon de quelque chose qui n'est pas très religieux, eh bien, deux anciens vont aller voir pour récolter un témoignage, pour voir s'il faut avoir encore un troisième ancien pour faire un comité de discipline. Et un comité de discipline, en gros, c'est assumer que la personne a fait une erreur et voir si elle est repentante ou pas. Si elle n'est pas repentante, il y a excommunication. Si elle est repentante, il peut y avoir juste un blâme ou même rien. Et en l'occurrence, ben ils viennent chez moi et puis ils me posent des questions très bizarres. Et puis, ben, c'est après coup que j'ai appris que ces questions bizarres, elles étaient écrites dans un livre auquel avaient accès seulement les anciens. Ben oui, parce que c'est une culture du secret. Tu sais juste ce que tu as besoin de savoir. Donc les anciens savent certaines choses que ben les pas anciens, le reste des participants ne savent pas. Et c'est la même chose pour plus haut. Il y en a qui plus haut savent des choses que les anciens ne savent pas. En l'occurrence, après toutes mes recherches, maintenant, je peux dire, je sais plus que beaucoup d'anciens. Parce que j'ai eu accès aux choses secrètes. Qui sont disponibles en ligne. Enfin, suffit d'aller sur Internet. Sauf que, comme je disais avant, il y a un contrôle de l'information sur soi-même. On va surtout pas aller regarder. C'est des apostats, ils mentent. Alors que non, ils ont juste les preuves. Ils ont du matériel qui est fait par l'organisation. Et puis du coup, ils partent et puis je perds des privilèges. J'avais beaucoup de choses à faire dans l'assemblée, dans la congrégation. Et je perds ces privilèges. Bon, ça s'appelle privilège, mais en soi, c'est des tâches. Hein. Suffit de changer le nom et ça devient beaucoup plus intéressant. C'est un privilège que d'aller laver les toilettes quand on est témoin de Jéhovah. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que je me suis toujours dit que si je pouvais aider, mais on appelle ça privilège. Ah, oui. Pour le coup, ben, ils partent et puis je perds certains privilèges et j'ai d'un coup plus de temps. Le temps parfait pour étudier et fortifier ma foi. Et me voilà ici. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui n'a pas eu d'études, qui n'a pas fait d'études, qui a travaillé en tant que... comment est-ce qu'on dit ça en français ? Putfrau. Ouais, elle a travaillé en tant que femme de ménage et elle s'est dit, mais je veux pas ça pour mes enfants. Du coup, elle nous a poussés. Elle a vu de quoi on était capable et elle s'est dit, non, tu vas faire des études. Même à un moment donné, moi, je lui ai dit, non, mais écoute, je veux rompre mes études, je veux faire un truc plus simple. Elle a dit, non, mais continue tes études. Et aujourd'hui, elle le regrette, hein, parce que aujourd'hui, je suis sorti et puis elle se dit, oh, mon fils va mourir, il va être détruit, il va être tué à Armageddon. Bon, ben voilà. Mais c'est pas la religion qui m'a fait faire des études, parce que c'est le contraire, la religion empêche de faire des études dans ce cas-là. Mais c'est la famille. C'est la partie qui m'était la plus chère et la plus importante quand j'étais témoin de Jéhovah. C'était de m'occuper des autres. Pour moi, la prédication, c'était secondaire. Et du coup, au moment où il y a eu le Covid qui est venu, moi, j'étais là pour les gens et puis j'allais les visiter, je leur apportais quelque chose, j'étais là. Et en l'occurrence, on m'a dit, ah, Pierre, écoute, tu peux pas devenir assistant. Assistant, c'est l'étape entre ancien et rien du tout, hein, c'est assistant. C'est la première étape, disons. Et un ancien m'a dit, tu peux pas devenir assistant parce que tu fais pas assez d'heures de prédication. Oui, parce que les heures qu'on fait de prédication, on les note sur un papier et on va les donner à un ancien, et du coup, il y a un contrôle sur combien on fait, il y a un jugement sur combien on fait. Et du coup, j'ai une conversation avec un ancien, et il me dit, écoute, On veut tous te nommer assistant parce que tu fais du bon travail, c'est super ce que tu fais. On voit que t'es là, tu participes, mais tu fais pas assez d'heures de prédication, hein, donc d'aller voir les gens. Et moi, je lui dis, mais là, le plus important pour moi, c'est pas de faire 10 heures, c'est de faire 5 heures bien, où je parle vraiment avec les gens, et le reste, c'est de m'occuper des gens dans l'assemblée. Et ça, c'était aussi une des premières étapes où je me suis dit, mais en fait, non, il y a une hypocrisie dans le truc où on cherche absolument à avoir des heures, parce que si on n'a pas d'heures, on peut pas monter. Mais en même temps, on dit, ah non, non, parce qu'il faut surtout pas juger par rapport aux heures. Alors, à chaque fois, dans les réunions, on dit, ah, attention, faut pas se comparer aux autres, etc. Mais c'est ce qu'un ancien faisait avec moi. Il me comparait, il me disait, t'as pas assez d'heures par rapport aux autres. C'est violence sociale, donc on ne parle plus. C'est donc exclusion, excommunication, ce que vous voulez. En l'occurrence, moi, j'ai pas excommunié. J'ai envoyé une lettre d'adieu à ma famille qui me parlait déjà plus ou moins plus. Et j'ai envoyé des poèmes et je leur ai dit, voilà, pour moi, en fait, ma vision du monde a changé. Donc voilà. Et j'avais envoyé cette lettre, j'avais donné à mon frère. En fait, je faisais énormément de crises d'angoisse à ce moment-là parce que je me disais, je vais plus voir ma famille. Même que je les voyais très peu, je vais plus les voir. Je donne la lettre à mon frère. Et j'arrivais pas à l'envoyer à tout le monde. Et lui, en fait, au lieu de l'envoyer à toute la famille, il a juste dit, Pierre n'est plus témoin de Jéhovah. Donc, en fait, j'ai même perdu ce dernier coup de montrer mes sentiments et mes émotions à ma famille. Après coup, je l'ai envoyé parce que je l'avais scanné, donc je l'ai envoyé, mais ils l'ont probablement pas lu. Et ça, c'est la première chose, donc violence sociale. Je pense que c'est tout. C'est tout. C'est une chose. Et c'est pour ça que sur la balance, en fait, c'est assez vite réglé parce que maintenant, je vis très bien. En fait, j'ai fait mon deuil. J'ai dit à mes parents, ils essayaient encore. Ils sont venus une fois à ma porte me dire, Pierre, écoute, en fait, on t'a débloqué sur WhatsApp. Je leur avais envoyé un truc. J'ai vu que j'avais été débloqué parce qu'en fait, on espère vraiment que tu reviennes. Et puis, au fond de nous, on croit que tu vas revenir, mais en fait, on va rester comme ça, à plus avoir de contact avec toi. Ils sont venus devant chez moi à me dire ça. Je leur ai dit, cassez-vous. Vous êtes pas ma famille. La famille, c'est pas le sang, c'est aussi l'amour. Si votre amour, il est pas inconditionnel pour moi et que vous acceptez pas que je pense différemment, cassez-vous. Je viendrai pas à votre enterrement. Ne venez pas au mien si je meurs avant vous. Parce qu'il fallait que je vive ça comme un deuil. Et c'est très dur à la fois sur le moment, mais en même temps tellement gratifiant. Je me sentais, enfin, j'avais le pouvoir de faire ce que je voulais. Et j'ai aucun regret sur ça. Absolument aucun. Depuis ce moment, donc je suis passé par les phases du deuil et c'est très bien. Et maintenant, s'ils reviennent à ma porte et qu'ils me disent on est désolé, on l'a fait faux, qu'ils viennent et puis on boit le thé et puis c'est bon, c'est réglé. Mais pour moi, ils sont morts. Donc là, maintenant, je fais très bien la part des choses et je suis heureux même si ma famille ne me parle plus. Ah, ça, c'est les points négatifs. Point positif, j'ai plus de contrôle sur comment on m'habille. Répression sexuelle, il n'y en a plus parce que j'ai décidé d'aller plus loin que juste voir ce que disait témoin de Jéhovah. Parce qu'une fois que je me suis dit je voulais plus être témoin de Jéhovah, je restais encore attaché à la Bible et à Dieu. Sauf que, en étudiant beaucoup la Bible et puis en faisant la même chose que ce que j'avais fait avec le don que j'avais vu, je me suis dit c'est un livre intéressant, un bon livre. Il y a pas mal de choses qu'on peut garder, mais je vais pas en faire le livre de ma vie, en fait. Donc du coup, comment est-ce que je crée ma morale? Et c'est là où je me dis c'est simple. C'est maintenant, enfin, je peux être une personne qui agit par souci de morale. Parce que tu peux pas être moral quand tu suis quelque chose parce que tu as peur d'être puni. C'est plus une morale qui est liée à toi, c'est juste parce que tu as pas envie d'être puni ou bien que tu as envie d'être gratifié. Donne l'aumône et tu le recevras au centuple. C'est très bien de donner l'aumône et d'aider, mais si le but c'est de recevoir au centuple, c'est plus hyper moral, hein. Soyons honnêtes. Et là, du coup, je me suis dit, j'ai envie juste d'une morale qui soit, qu'est-ce qui me semble bien, qu'est-ce qui me semble pas bien, où est-ce que je fais du mal aux gens, du coup, si je fais du mal aux gens, j'enlève, et si je fais du bien aux gens, je garde. Mes relations avec tous les amis que j'ai, le fait de... c'est un truc... jamais j'aurais pu m'imaginer d'aller à une Gay Pride à Zurich. Et puis j'ai fait la première Gay Pride cette année avec mes amis homosexuels. Et purée, c'était juste génial. Et puis j'ai vu que eux avaient vraiment un amour inconditionnel pour moi. C'est pas genre ah oui, si tu es comme ça, c'est bon. Si t'es non. Et du coup, ben juste voir qu'il y a des vrais amis, des personnes qui tiennent vraiment à toi, pas pour un élément qui corresponde à leur manière de penser, mais juste parce qu'ils t'apprécient. Ça, c'est quelque chose de positif que j'ai pu découvrir après. J'ai plus peur de dire la vérité, j'ai plus peur de dire ce qui s'est passé. J'ai pas peur de dire ce que j'ai dit à mes parents. J'ai pas peur de dire ce que mes parents m'ont fait. Pourquoi? Parce que c'est cette peur qui m'a empêché de me libérer. Et comprendre ça, ça m'aide aussi à essayer d'apporter quelque chose pour mes élèves. Et j'en reviens tout le temps à un élément qui est très important dans l'enseignement, c'est si vous connaissez quelqu'un qui est dans un milieu sectaire, soyez gentil avec. N'ajoutez pas de l'huile sur le feu, parce que chaque geste mauvais que vous faites, faut le conforter dans le fait qu'il est dans le bon mouvement, nous contre eux. De toute manière, ils sont méchants et nous, on est gentils. Parce qu'il y a des choses positives dans les milieux sectaires. Il y a un environnement social très fort, des liens sociaux, même si c'est conditionnel, ben, c'est quand même fort. Et du coup, ben, le fait de dire « Ah non, mais vous, les témoins de Jéhovah, ou bien ah, vous, les mormons, ou ah, vous, tel autre milieu sectaire ben, », en fait, ça réconforte les gens, ça les conforte dans leur situation. Je veux pas être ce sauveur qui dit « Non, mais je vais t'aider à sortir, viens... » Parce que la personne, elle va pas vouloir sur le moment. C'est la caverne de Platon. Retourne dans la caverne et sortir les gens, tu te fais buter. Littéralement, tu meurs, c'est fini. Et là, à la place, c'est essayer d'envoyer deux, trois informations dans la caverne sans trop y rentrer. Et puis, ceux qui veulent en faire quelque chose, ils en font quelque chose. Et puis, la probabilité que quelqu'un en fasse quelque chose est très faible. Et puis, ça sera, t'auras fait ton travail. Moralement, c'est bon. Je fais mon travail. Je me dis, j'ai un idéal pour lequel je me bats. C'est la connaissance de cause. Si tu veux être témoin de Jéhovah en connaissance de cause, en sachant ce qu'il y a derrière, vas-y. Assume. Pas de souci. Mais assume. Assume tout. Et moi, je pouvais pas assumer. C'est pour ça que je suis sorti. Je pouvais pas assumer le fait de dire des choses aux gens alors que j'étais pas d'accord avec ça. Je pouvais pas assumer de dire des choses aux gens alors que je savais pas vraiment. Je pouvais pas assumer d'avoir des actes où je me disais, mais ça, je suis pas trop d'accord avec cet acte. Je ne juge pas quelqu'un qui est témoin de Jéhovah. Par contre, je juge son action de violence sociale, morale, émotionnelle face aux gens qui décident de sortir. Ça, je le juge fortement. Je juge ma famille pour ça. Mais je leur en veux pas parce que je me dis qu'ils sont endoctrinés. Elle est énorme, la place de l'art chez moi. J'écris depuis que j'ai 16 ans. Mais j'ai toujours eu aussi, j'ai toujours mis une barrière sur certaines choses où je voulais pas écrire. Certains sujets sur lesquels je me disais, non, je vais pas écrire. La première chose sur laquelle je voulais jamais écrire parce que je trouvais ça, je crois que c'était pas à moi de le faire, c'était sur Dieu. Sur tout ce qui était religieux, je voulais pas écrire. Sur tout ce qui était politique, je voulais pas écrire non plus parce que les témoins de Jéhovah sont apolitiques. Donc du coup, j'écrivais plus sur les sentiments, sur la nature et ce genre de choses. Donc ça m'a toujours aidé dans la vie. Pas aidé dans le sens à libérer mes émotions. Non, c'est juste ça m'a aidé à avoir un hobby parce que j'aime beaucoup ça et puis ça me fait énormément de bien. Le plaisir de trouver le bon mot, c'est une bonne drogue. Peu de temps avant que j'envoie ma lettre pour partir, j'ai eu un vernissage avec une témoin de Jéhovah qui était peintre. Et du coup, j'avais sérigraphié des poèmes qui parlaient de moi en train de sortir. Et la plupart des gens qui venaient à cette exposition étaient témoins de Jéhovah. Quand j'ai la plupart, 90%. Hein. Mais je parlais, il y avait un poème, quand des fleurs poussent dans le ciel, donne-leur le temps, la place. Ben, ces fleurs qui poussent dans le ciel, c'est impossible. Sauf que si tu veux bien leur donner le temps et la place, elles vont pousser. Exactement comme moi qui est en train de voir que, ok, je suis en train d'éclore, c'est pas encore possible tout à fait, je peux pas encore complètement éclore parce qu'il y a encore deux, trois trucs à régler, mais je vais me donner le temps et la place. Il y avait un autre poème qui était un poème aussi visuel sous forme de kaléidoscope où je parlais d'un kaléidoscope qui se brise dans les airs et en fait au moment de la chute, jusqu'à ce qu'il atterrisse, il y a tous les morceaux qui se séparent exactement comme ma manière de penser où je me rendais compte que tout ce que j'avais appris s'était cassé en un coup comme du verre et c'était des morceaux de verre qui allaient tomber par terre. Donc en fait c'était plein de poèmes qui étaient exposés, qui parlaient de moi. Et il y avait deux, trois amis proches qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Et puis, ils regardaient tous les poèmes, ils regardaient, ils savaient. Et moi, c'était mon petit plaisir. C'était mon petit plaisir de, ben écoutez, en fait, les gars, vous savez pas, mais bientôt, je suis plus là. Et c'était aussi, pour moi, c'était nécessaire aussi dans un niveau, peut-être cathartique, mais aussi un niveau juste, comment on dit, de libération. De montrer, d'exposer ce que je faisais. Et après, au même moment, j'ai commencé à publier en ligne mes poèmes sur Instagram, où je fais de la poésie visuelle, où je joue vraiment avec des lettres qui apparaissent ou disparaissent. Par exemple, il y en a un là récemment que j'ai écrit où on voit les lettres. Donc il y a vos, V-O-S, puis ensuite il y a la lettre T-A-B-O-U-S, donc vos tabous. Sauf que il y a le T et le O qui tombent et ça donne vos abus. Et en fait, vos tabous, vos abus, c'est un peu les deux. C'est vous abusez de quelque chose, mais on n'a pas le droit d'en parler parce que comme ça vous permet de conserver votre pouvoir sur quelque chose. Je pense qu'il y a deux contraintes, il y a deux types de contraintes. Il y a les contraintes physiques où on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas moyen. Et puis il y a les contraintes mentales. Et je pense qu'on sous-estime les contraintes mentales. Qu'on sous-estime les personnes qui sont juste mentalement contraintes à rester avec un homme ou une femme qui leur font du mal, à rester avec une famille qui fait du mal, à rester dans un groupe qui fait du mal. J'ai jamais été contraint physiquement. Mais ça, c'est le point de vue que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, bah, en fait, c'est sous-estimé. On a tendance, d'un point de vue extérieur, à dire, ah, mais il y a quelqu'un qui lui fait du mal, bah, qui se casse. Sauf que non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a quelque chose derrière où faut vraiment déconstruire une chose après l'autre et déjà accepter qu'on les contraint. Donc ça, c'est le changement que j'ai aujourd'hui, ce serait ça. Et ce serait, ben, peut-être encore plus d'empathie pour les personnes qui sont encore contraintes. Aujourd'hui, si j'apprends que telle personne est dans un mouvement, que ce soit politique, religieux, un mouvement sectaire, ben, je vais certainement pas m'énerver contre la personne. La personne, elle est victime de sa contrainte. C'est pas, elle a juste pas les manettes, elle a pas accès aux clés. Et donc mon point de vue, c'est on peut apporter ces clés par l'enseignement. Puis dans mon enseignement, tout le temps quand on travaille sur la dissertation avec mes élèves, je leur apporte d'abord de la matière et je choisis volontairement cette matière de dérive sectaire pour pouvoir ensuite travailler sur la dissertation. On pourrait le faire avec tellement d'autres matières, mais je me dis c'est l'occasion, je connais quelque chose. Après à la fin, je leur dis bon ben il y aura une visite de quelqu'un qui viendra parler. Il a été dans une secte et puis il crée des questions. Puis après, ben, au moment où ils ont terminé, j'arrive devant la classe, je dis « Bon, ben, écoutez, je vous écoute. »
Vous venez d'écouter un épisode des Étoff, un podcast réalisé par Laure Bétrice, Jill et le projet Évasion. Musique, Horizon Liquide. Retrouvez les autres épisodes sur les principales plateformes de podcast et sur www.lesétoffs.org. Et si vous aussi, vous souhaitez nous raconter vos histoires d'évasion, écrivez-nous à radioevasion@riseup.net.